La météo est signée Joël Collado de Météo France.
La météo avec Super U, magasin hyper et supermarché.
Le vent est bien établi au sud. Ce vent qui la nuit prochaine et demain balayera en forte rafale la plupart de nos régions. Un vent particulièrement vigoureux sur le littoral de l'Atlantique et sur les plateaux du Massif central. Maintiendra demain un temps très doux. Les températures en légère baisse toutefois dans la journée sur les régions de l'ouest continueront sur le bassin parisien et les régions de l'est. À approcher l'après-midi les 16 à 17 degrés, il fera autour de 18 à 20 degrés sur le sud. Et ce vent, demain à l'inverse d'aujourd'hui, s'accompagnera de beaucoup de nuages et même de pluie. Autour de la Méditerranée, le temps deviendra franchement maussade. Demain, il pleuvra. Ces pluies généralement faibles sur le littoral prendront sur les Cévennes caractère orageux. À l'ouest, en Bretagne, sur les Pays de la Loire, la Basse-Normandie, les pluies de la nuit du début de matinée seront l'après-midi suivies dans un air un peu plus frais d'un régime d'averse. De l'Aquitaine au Limousin, du Poitou aux Flandres, en passant par l'Île-de-France, dès les premières heures de la matinée, demain, le temps tournera à la pluie et il pleuvra une grande partie de l'après-midi. Sur le midi toulousain, le vent d'automne retardera un peu l'arrivée de ces pluies. Et puis en allant vers l'Auvergne, le Lyonnais, les Alpes et les régions de l'Est, ces pluies attendues dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi seront précédées dans la journée d'un peu de soleil.
Toutes les prévisions météorologiques, département par département, à la ville, à la mer ou à la montagne, sont disponibles par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Objectif 2007, le compte à rebours.
Retrouvez toute l'actualité politique sur la web radio présidentielle en ligne sur franceinter.com.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous avez des pains au chocolat ?
Oui, mais aujourd'hui c'est moi qui pose les questions. Si jamais je me fais cambrioler, je suis assurée contre le vol. Mais si je veux retravailler, je ne sais pas, le lendemain par exemple, qui est-ce qui va remplacer ma vitrine, hein ?
Et sinon des croissants, des chouquettes, tout ça vous avez, non ?
Parce que tout le monde n'est pas capable de répondre aux questions d'assurance des professionnels, la Massif organise le mois des professionnels du 6 novembre au 15 décembre. Prenez rendez-vous avec votre conseiller Massif et assurez-vous d'être bien protégé. Massif. La solidarité est une force.
Quand la vieille femme au nez crochu insista pour lui offrir sa pomme, Blanche-Neige lui annonça qu'elle venait de se faire les ongles avec un sublime vernis vermillon d'une grande marque de produits de beauté, comme son nouveau rouge à lèvres assorti, et que, par conséquent, sa pomme, elle pouvait se la garder.
La vie est tellement plus belle avec les produits de beauté des grandes marques. Découvrez-les chez votre parfumeur conseil.
France Inter, 19h24, nous retrouvons tout de suite Alain Bédoué.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir. Y a quelqu'un ? Bref, sommes-nous seuls dans l'univers ? Y a-t-il ou y a-t-il eu ailleurs d'autres vies, voire d'autres intelligences possibles, quelle que soit ou quelle que puisse être leur forme au demeurant ? Avec 100 milliards de galaxies dans l'univers, 300 milliards d'étoiles dans notre seule galaxie, certains scientifiques se posent très sérieusement la question et la Cité des sciences et de l'industrie y consacre depuis hier une grande exposition. Disons tout de suite, il ne s'agit pas tant de petits hommes verts ou de soucoupes volantes, encore qu'on en dira un mot tout à l'heure et que l'expo elle-même y fait mention, elle parle aussi des mythes et de la science-fiction, que de molécules, d'acides aminés, d'ondes radioélectriques ou encore d'eau liquide, de matière carbonée, d'énergie et de radiotélescopes. Avec nous ce soir, plusieurs scientifiques passionnés par cette question, qui est une vraie question scientifique. André Brac, exobiologiste, chercheur au CNRS, auteur de « La vie est-elle universelle ?» chez EDP Sciences et qui s'est plus spécialement penché sur l'émergence de ce qu'on peut appeler la vie sur Terre et par extension peut-être sur d'autres planètes. Alfred Vidal-Majar, astrophysicien CNRS de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui a publié pour sa part « Il pleut des planètes » chez Hachette Littérature, Sophie Bécherel, bien sûr, de France Inter, et puis dans les studios de France Bleu Vaucluse, ce dont je le remercie car il a spécialement loupé un train pour nous, un sociologue des sciences, Pierre Lagrange, qui a posé, lui, l'épineuse question dans un livre chez Robert Laffont, « La guerre des mondes aura-t-elle lieu ?»
Le téléphone sonne.
Un premier appel avec Sani, quelque part dans le Nord, à Lille, je crois. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais poser la question suivante. Y a-t-il la vie ailleurs que sur la Terre?
Bah, c'est une excellente, si je puis me permettre, entrée en matière. Je vais tout simplement demander à André Braque et Alfred Vidal-Majar, et puis aussi peut-être, s'il le souhaite, Pierre Lagrange, ce qu'ils en pensent. André Braque.
Bon, ça fait plusieurs siècles que l'on espère trouver une vie extraterrestre, donc c'est l'objet de recherches maintenant plus expérimentales, scientifiques, depuis une cinquantaine d'années. Mais c'est vraiment la question centrale de l'exobiologie, donc nous sommes à la recherche de la première vie extraterrestre.
Pour votre part, que répondriez-vous, Alfred Vidal-Majar ?
Je répondrai, on n'en sait rien. Vraiment, il est impossible de répondre à cette question. D'ailleurs, c'est le sujet de toute la recherche qui se fait dans ce domaine. On n'en a aucune idée. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a la vie sur Terre. Et ça, c'est déjà le point de départ très fort qui nous permet d'avancer dans le domaine.
Pierre Lagrange, à France Bleu Vaucluse.
Oui, bonsoir. C'est une des grandes questions, au-delà de la science, même de la philosophie. Et on cherche toujours l'autre. Et moi, je ferai le pari de Pascal. Je préfère parier que nous ne sommes pas seuls plutôt que d'accepter l'idée que nous soyons seuls.
Alors, Jacques à Pantin, peut-on rappeler ce qu'est l'exobiologie ? Bon, ben, exo au dehors, biologie, la vie ailleurs, la vie au dehors. Et puis, plus précisément, question de Jean-Louis à Paris, quelle est la nature des expériences ou recherches menées par les intervenants ? Peut-on avoir quelques exemples concrets ? Pour votre part, André Braque.
Alors, l'exobiologie, c'est effectivement la recherche d'une vie extraterrestre. C'est son but ultime. Pour faire cette recherche, on a besoin d'une référence. Donc, on prend la vie terrestre comme référence. Ce n'est pas uniquement par égocentrisme, c'est parce que la vie terrestre est caractérisée par la chimie du carbone dans l'eau. Et la chimie du carbone et l'eau à l'état liquide ont des propriétés particulières qui en font des candidats de choix pour ce type de recherche. Alors, concrètement, cette discipline couvre beaucoup de recherches dans divers. On fait appel à des astronomes qui cherchent des planètes, des lieux où il y aurait de l'eau liquide dans l'univers. On a besoin d'astrophysiciens qui nous disent où se forment les molécules organiques, donc cette fameuse chimie du carbone. On a besoin des géologues qui se penchent sur l'histoire ancienne de la Terre, des chimistes pour essayer de reconstituer en tube à essai ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années, et des biologistes qui nous définissent la vie contemporaine, qui nous sert de référence et d'exemple.
Et vous, Alfred Vidal-Majar, la nature de vos expériences, de vos recherches, de vos travaux, disons ?
Oui, c'est l'astrophysique dans beaucoup de domaines, mais depuis une dizaine d'années, je me suis concentré sur la recherche de planètes extrasolaires, parce que c'est un sujet qui faisait rêver les gens depuis tellement longtemps. Y a-t-il d'autres planètes dans l'univers ? Et jusqu'en 1995, on pouvait pas vraiment répondre à la question. Maintenant, il y en a à peu près 200 de trouvés. J'en ai observé plusieurs. Certaines s'évaporent. J'en ai même surnommé une Osiris contre vents et marées parce que les noms officiels sont plutôt du genre HD 209 458 B. Vous voyez que c'est pas facile, c'est pas très exotique. Mais surtout, à l'Institut d'astrophysique, nous avons découvert la plus petite planète extrasolaire à ce jour, qui fait 5 fois la masse de la Terre. C'est Jean-Philippe Beaulieu qui l'a découverte. Et Alain Lecavalier et son étudiant David Ehrenreich ont essayé d'imaginer quelle était et de modéliser l'intérieur d'une planète de 5 fois la masse de la Terre. C'est une chose extraordinaire parce que dans notre système solaire, un tel objet n'existe pas du tout. Donc là, on était dans le domaine de l'inconnu parfait et ils ont réalisé que cette planète a dû avoir un océan d'eau pendant plusieurs milliards d'années. Donc peut-être la vie a pu y apparaître là aussi.
Sophie Becherel.
Juste une précision, une exoplanète, c'est une planète ou plusieurs d'ailleurs qui tournent autour d'une étoile, comme nous avons notre Soleil et les 8 planètes qui tournent autour, Pluton ayant été déclassé cet été.
Un appel de Christian, vous êtes en Touraine. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir. Alors voilà, ma théorie, ma question, c'est une question un peu abstraite. La théorie des supercordes, c'est la physique de demain, je crois, qui compte jusqu'à 26 dimensions du temps. Ne rend-elle pas possible que d'autres univers obéissant à d'autres lois, ayant d'autres configurations, existent en même temps que le nôtre ? Alors soit d'autres univers, soit des régions différentes dans notre univers, avec une vie obéissant à d'autres lois. J'ai lu que ce serait une application ou une conséquence, je ne sais pas, du principe anthropique fort ou faible, je ne sais pas.
Alors, Alfred Vidal-Majar va vous répondre. Il faut juste préciser pour ceux qui nous écoutent que ce qu'on appelle la théorie des cordes ou les supercordes, au fond, c'est une des voies possibles d'explication de certains phénomènes de physique quantique, pour faire simple à l'extrême.
Voilà. Pour faire très très simple.
Très très simple.
C'est vrai qu'on ajoute des dimensions. Je ne crois pas que le nombre de 26 soit correct, mais ça ne fait rien. Je crois que c'est un domaine de la recherche théorique qui avance d'une manière remarquable, qui donne des réponses d'une manière élégante. D'ailleurs, je vous recommande un livre qui s'appelle « L'univers élégant » de Green, qui est extraordinaire à lire, qui vous fait plonger dans ce monde extrêmement complexe et même inabordable. Je vous dirais même que la mécanique quantique, déjà, est un domaine extrêmement étrange. Ceci dit, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres univers. C'est des choses que les gens imaginent, mais vous savez, en théorie, on imagine tout. Et finalement, il faut attendre un jour l'expérience, et quand l'expérience arrive, elle vous dira oui ou non, cette théorie est possible. Dans ce domaine-là, la théorie est confrontée à peu d'observations, mais tout de même, ça permet d'expliquer pas mal de choses, même y compris pendant le Big Bang. Donc vous voyez, c'est une théorie qui est très séduisante, et probablement, elle a quelque chose de vrai, indiscutable.
André Braque, vous vouliez ajouter un commentaire ?
Oui, on arrive à peine maintenant à faire le tour de notre univers en remontant le temps jusqu'à 13,7 milliards d'années. Donc, je pense que lorsqu'on aura fait le tour de notre univers, on va s'attaquer aux autres univers. Mais pour l'instant, déjà, notre univers est déjà bien suffisant. Mais nous sommes évidemment ouverts à toutes les hypothèses qui permettent de faire avancer les connaissances.
Oui, je vous en prie, monsieur Vidal-Majar.
Parce qu'il y avait un commentaire sur le principe anthropique. Le principe anthropique, pour juste l'expliquer en deux mots, c'est de dire notre univers, il est tel qu'il est parce que nous sommes dedans. Et on essaye de remonter les conditions de l'univers en disant, bon, mais si on avait changé simplement la force électromagnétique, si on avait changé un peu la gravité, si on avait changé quelques paramètres comme si on ajustait un jeu, à ce moment-là, on se rend compte que très rapidement, l'homme n'aurait pas pu apparaître, ou même la vie n'aurait pas pu apparaître, même des étoiles n'auraient pas pu apparaître. Et dans ces conditions, on se dit, au fond, si les hommes sont là, c'est parce qu'ils sont dans un univers tel qu'il est, et c'est eux, leur existence, qui imprime cette condition. Mais c'est un peu tourné en rond, et donc ce n'est pas un argument très fort.
Jacques, vous êtes à La Rochelle, bienvenue au téléphone sonne, bonsoir.
Bonsoir. Voilà, la vie terrestre est déterminée par la chimie du carbone. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une vie extraterrestre ne pourrait pas être déterminée par la chimie d'un autre élément ?
André Braque, exobiologiste.
Oui, alors le carbone a quatre bras, quatre balances, donc il permet de faire des échafaudages de plus en plus complexes. Et c'est un bon candidat pour faire justement ces architectures qui se sont mises à vivre, donc à se multiplier dans les océans primitifs. Il n'est pas le seul. Le silicium a aussi quatre bras, donc pourrait aussi faire des échafaudages. Par contre, il a moins de vertus que le carbone. Et ses liaisons sont plus rigides, il est moins abondant dans l'univers parce que c'est un élément plus lourd que le carbone, donc il se forme plus tard et donc il est moins abondant. Et quand on regarde les molécules organiques, donc les molécules même toutes confondues qui sont détectées dans l'espace interstellaire par radioastronomie, il y a environ 90 molécules à base de carbone et d'hydrogène, il n'y a que 7 molécules à base de silicium. Donc la chimie du silicium est moins inventive. Et on a du mal à imaginer. On n'exclut pas, mais le carbone a quand même un léger avantage par rapport au silicium.
Sophie Becherel.
Non, je voulais demander à Pierre Lagrange, qui lui s'intéresse aux représentations en fait d'une vie extraterrestre. De quand datent ces représentations et est-ce que ce sont forcément les petits hommes verts? Est-ce que ça évolue? Ça a évolué?
L'orientation des extraterrestres, il y en a depuis très longtemps. Mais c'est vrai que bon, il y a eu un changement avec Copernic qui a introduit l'idée que la Terre était une planète comme les autres. Et donc, il a multiplié les sources de vie potentielle. Il y a une époque, on imaginait de la vie sur toutes les planètes du système solaire. Et bon, évidemment, la science-fiction ou après des spéculations, des débats comme celui autour des soucoupes volantes ont inventé tout un tas d'êtres très variés. Il y a plusieurs filières dans la science-fiction. Ce qui est paradoxal, c'est que Herbert George Wells, avec La Guerre des Mondes, a vraiment lancé quelque chose. Mais alors qu'il voulait insister sur l'idée d'altérité, de différence et pas de différence dans le sens monstre, il est malgré lui à l'origine de l'invention des monstres martiens. C'est un peu paradoxal parce qu'il voulait montrer que ce qui est différent n'est pas forcément monstrueux. C'est ça qui est important. Et après, la science-fiction, c'est populaire, s'est engouffré là-dedans et a imaginé des choses vraiment extrêmement divergentes. Les petits hommes verts notamment, qui sont ensuite passés dans la culture populaire générale à cause des soucoupes volantes dans les années 50.
Christian, vous êtes à Sedan, bonsoir. Vous avez des lectures d'auteurs du CNRS, je crois.
Oui, c'est ça. Bonsoir, France Inter.
Bonsoir.
J'ai un livre paru en 2003 de Jean-Pierre Petit, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Il parle des nouvelles armes dont disposent les États-Unis, dont une qui est un engin qui volerait à 10 000 km à l'heure. Ensuite, il parle de lettres qui ont été reçues en Espagne, des lettres UMITE, hein, U-2-M-I-T-E. Une lettre qui a été aussi reçue par, dont a eu connaissance George Bush et M. Gorbatchev avant la guerre du Golfe. Hein, des gens qui pourraient nous apporter des... nous communiquer des recettes pour produire économiquement de l'énergie de manière non polluante, ainsi que des protéines et des lipides alimentaires de manière massive. Ils pourraient guérir les cancers, on pourrait avoir une société qui deviendrait l'Éden. Et quand on lit ce livre, ça a vraiment l'air vrai.
Ben, ça l'est peut-être, je sais pas. Vous savez, ça fait penser à ce que Blaise Cendrard disait du journalisme. Ça mène à tout à condition d'en sortir. Peut-être qu'en l'occurrence, c'est le cas du CNRS. Plus sérieusement, Alfred Vidal-Majar, que peut-on penser disons, de ces hypothèses?
Non, pas forcément plus sérieusement. Je voudrais justement vous dire, essayez de ne pas croire tout ce qu'on vous raconte. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'étiquette astrophysicien qu'il dit que des choses vraies. Je vais même ajouter, moi le premier, je dis très souvent des bêtises, ça ne me gêne absolument pas. C'est le processus de la recherche, on fait des hypothèses, elles sont fausses, on les jette, etc. Donc ce que disent les scientifiques n'est pas forcément vrai, mais ils sont entre eux et se contre pour essayer de faire ressortir in fine la vérité. Donc quelqu'un qui dit isoler quelque chose, ce n'est pas du tout un critère, mais surtout, essayez de garder votre esprit critique quand vous lisez quoi que ce soit. D'ailleurs, je vais vous mentionner un autre livre écrit par un très grand astrophysicien, Fred Hoyle, qui s'appelle Le Nuage Noir, qui est un livre fabuleux, qui raconte l'apparition d'une forme de vie qui est un grand nuage interstellaire, qui arrive et qui mange le soleil pratiquement. La civilisation sur la Terre va disparaître. De justesse, on arrive à communiquer avec lui et tout le monde survit. C'est clairement un livre de science-fiction, mais c'est écrit par un astrophysicien. Sans aller plus loin, on pourrait dire « Ah, mais c'est vrai ». Vous voyez, il faut absolument faire attention. Là, c'est quelqu'un qui a, bon, pour des raisons probablement personnelles, eu envie d'énormément diverger, mais on ne peut pas en dire plus.
Pierre Lagrange, à France Bleu Vaucluse, vous vouliez intervenir.
Oui, Jean-Pierre Petit est un... Moi, je le connais bien. C'est quelqu'un qui est bourré de talent. Ça, on ne peut pas lui enlever. Après, il y a... qui est spécialiste de domaines, bon, la cosmologie et la magnéto-hydrodynamique. Et c'est vrai qu'il y a, à l'origine de son intérêt pour ces sujets, toute cette correspondance envoyée par ces prétendus humites. Alors, l'histoire du mot, c'est soi-disant une colonie d'extraterrestres qui aurait débarqué sur Terre dans les années 50 et qui se serait installée, notamment en Espagne, où ils auraient embauché des dactylos pour envoyer... dicter des courriers sur leur cosmologie, leur physique, leur sociologie, leur politique, leur religion, et qui auraient été envoyés à des tas de personnes. Et ça a généré toute une mythologie absolument passionnante, parce qu'il y a des milliers de pages de cette littérature, écrite dans un style très empoulé, avec des mots du langage humite, qui a été décrypté, des gens se sont intéressés à ce langage. Et Jean-Pierre Petit s'est intéressé aussi, et il est persuadé d'avoir trouvé des idées géniales en physique, en cosmologie et en MHD là-dedans. Alors, ce qu'il en fait dériver, c'est extrêmement intéressant. Il a publié des publications scientifiques là-dessus. Alors après, bon, c'est aux scientifiques de débattre entre eux. La question, c'est qui sont ces humites? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bande de types assez talentueux, mais néanmoins de sacrés farceurs. On en a identifié certains, d'ailleurs, en Espagne. Il y a un type qui s'appelle Jordan Peña, qui est à l'origine d'une partie de cette correspondance. Mais ça pose tout un tas de problèmes, à la fois sur les processus de la découverte scientifique, qui sont parfois très mystérieux, et puis sur des choses un peu comme certains canulars qu'on est capable de monter, qui peuvent être très sophistiqués.
Sophie Becherel.
Pour vous dire que les scientifiques sont ouverts à tout, je voulais juste vous préciser qu'il y a dans le monde plusieurs groupes de scientifiques qui s'intéressent à cette question des extraterrestres. En France, depuis 1977, au sein du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, il y a quelques personnes qui, dans le GEPAN, le groupement d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, s'intéressent aux témoignages de ces phénomènes-là, les ovnis, les lumières, etc. Les analysent, voient ce qui est crédible, ce qui peut être explicable, ce qui ne l'est pas. Ce groupement existe donc toujours, même s'il n'est pas très important, il existe. Et puis au niveau américain, la NASA finance faiblement, mais finance aussi le SETI, qui est un programme de Search for Extraterrestrial Intelligence. On essaie d'écouter des messages qui nous viendraient d'ailleurs.
André Braque.
Oui, notre domaine a certes une charge culturelle émotionnelle très forte et la finalité comme métaphysique. Et nous, scientifiques, il faut qu'on arrive à convaincre le public et les décideurs que c'est une véritable démarche scientifique qui consiste à émettre une hypothèse et à s'empresser à accumuler des faits pour conforter l'hypothèse. Si les faits ne suivent pas, l'hypothèse reste de la science-fiction. Donc nous sommes attachés très fortement à la valeur des faits expérimentaux.
Un mot encore là-dessus, Pierre Lagrange.
Oui, le débat sur les ovnis, c'est vrai qu'il y a deux filières. Il y a la filière SETI, des programmes scientifiques qui sont reconnus, et tout le débat sur les soucoupes volantes qui dure depuis le début des années 50, la fin des années 40. Et souvent, les scientifiques sont très, pour tout un tas de raisons, très réfractaires à ça. Le GEPAN donc essaye d'étudier ces sujets. Toute la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut obtenir des faits, parce qu'à la base, ce sont des témoignages, des gens qui rapportent avoir vu des choses qui sont, pour la majorité, très sincères, et une partie des cas qui restent très difficile à expliquer, voire qui ne sont inexplicables pour l'instant. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut intéresser éventuellement des scientifiques à ce genre de récit. On vit dans une espèce de mythologie de la science qui s'intéresserait à tout. Ça n'est pas tout à fait vrai. Pour intéresser des scientifiques, il faut aussi créer une communauté d'intérêt sur certaines problématiques. Et le problème des ovnis depuis si longtemps, c'est que c'est souvent associé à la culture populaire, point, voire aux superstitions, et pas à des questions scientifiques. Alors qu'il y a une passerelle évidente entre cette culture populaire et les questions autour du programme SETI, et qu'il pourrait y avoir tout un tas de questions intéressantes à poser, notamment sur la situation de contact. L'histoire des soucoupes volantes, c'est une histoire très intéressante où on a une controverse sans fin qui dure depuis 60 ans maintenant sur des choses qu'on n'arrive pas à identifier. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que si on se met dans l'hypothèse où on serait confronté à une civilisation beaucoup plus ancienne que la nôtre, on serait face à quelque chose qui nous serait très difficilement compréhensible. Donc, je ne dis pas que les soucoupes volantes, c'est ça. Je dis simplement que ça peut être une expérience de pensée assez intéressante pour tester une situation de contact réel ou supposé.
André Braque.
À propos des faits, il nous suffirait d'un milligramme de matière apportée par ces visiteurs pour décider, pour dire oui ou non, ceci est d'origine extraterrestre, ceci provient de visiteurs extraterrestres. Nous n'avons pas ce milligramme.
France Inter, le téléphone sonne, Alain Bédoué.
Didier en Ille-et-Vilaine qui s'interroge, je crois, Didier, sur le coût de tout cela. Pourquoi cette démarche des scientifiques et combien ça coûte, c'est ça votre préoccupation, Didier ?
Non, pas tout à fait.
Ah bon ?
Je comprends bien les scientifiques qui s'intéressent à la recherche, à la curiosité d'une autre vie dans l'univers. Mais je suis plombier et je ne comprends pas le sens de dépenser des milliards et des milliards à rechercher une vie extraterrestre alors que les trois quarts de l'humanité sont en train de crever et on est en train de faire péter la planète. Et je veux dire, j'espère pour les extraterrestres qu'on va pas les trouver dans l'univers, parce que si on leur instaure le même régime qu'on est en train de faire subir à la planète,
Ça serait pas un service qu'on leur rendrait, Alfred Vidal-Majar.
Écoutez, moi je trouve que c'est vrai, cette vision est réaliste, mais d'un pessimisme infini, parce qu'à ce moment-là, on se mettrait tous à trouver une solution, on ne ferait plus que ça, on deviendrait, j'allais dire, tous plombiers, mais il ne faut pas exagérer, mais ça veut dire qu'on devrait tous faire des choses concrètes, terre à terre, qui auraient une conséquence immédiate, qui serviraient à quelque chose. On supprimerait l'art, on supprimerait tout ce qui est, entre guillemets, inutile. Et en plus, on ne réaliserait pas qu'à très courte échéance, tout ce qui se fait comme découverte, et même entre nous, pour sauver la planète, si vous pensez que ce n'est pas en ayant des scientifiques qui se posent sur le problème d'une manière un peu non passionnelle, parce que pour le moment, c'est un peu débridé, beaucoup trop passionnel, comme les soucoupes volantes d'ailleurs, je crois que c'est la pire des erreurs. Au contraire, soyez très heureux qu'il y ait des scientifiques qui cherchent d'autres planètes, qui trouvent d'autres atmosphères, qui trouvent d'autres conditions, peut-être même d'autres formes de vie, et au bout de tout ça, qui vous diront « voilà comment marche notre planète et voilà pourquoi il y a ce phénomène d'emballement qui nous terrorise, il n'y a pas d'autre mot, mais peut-être qu'on trouvera la solution. » Et c'est grâce à des scientifiques, pas à d'autres, ça.
Alors,
c'est clair.
On n'occulte pas votre question, Didier, parce que tous nos invités vont répondre. Je voudrais juste signaler, parce que je vois Sophie Bécherel à mes côtés, ici même, il y a 3 semaines, on parlait des 50 ans, je crois, de la coopération spatiale franco-soviétique. Et on a eu quelqu'un comme vous qui disait « Mais qu'est-ce que les scientifiques vont fabriquer dans l'espace alors qu'il y a tellement de problèmes sur Terre ?» Et un de nos invités, je ne sais plus lequel, c'est un exemple, je cite ça de mémoire, Monsieur Bibring, l'astrophysicien disait, ben, je vous ferai remarquer que les histoires de couches d'ozone, etc., c'est en partie à cause des expériences d'ordre spatial qu'on a pu effectivement les contrôler. Je referme la parenthèse pour répondre toujours à Didier. André Braque,
votre... Dans 4 milliards d'années, le Soleil va exploser. Donc il va falloir chercher une planète de secours. Alors, je crois que c'est important aussi de savoir peut-être que c'est des projets à très très long terme, mais le Soleil a une durée de vie de 8 milliards d'années, 9 milliards d'années. On est à la mi-temps. On est à 4,5 milliards. La mi-temps passée, il restera encore du temps, mais après, il faudra envisager des grandes migrations spatiales et chercher des planètes habitables.
Et ça, ça va bien plus loin que la prochaine échéance présidentielle. Pierre Lagrange, qui voulait répondre aussi dans le Vaucluse. Pierre Lagrange.
C'est vrai que c'est pour aller dans le même sens. Si on se limite à ce qui est très directement utile pour le temps présent, on ferait plus grand-chose. Il y a tout un tas de pistes à explorer. On ne sait pas toujours ce qu'on va trouver, d'ailleurs, dans certains cas. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas prévoir tout a priori et de garder, je dirais, un temple pour le dieu inconnu, quoi, d'une certaine façon. Et rechercher des extraterrestres, on aurait pu aussi rester de notre côté de l'Atlantique, ne jamais bouger. Alors évidemment, là, ça a des conséquences pour d'autres qui ne sont pas forcément très heureux des voyages qu'on a pu faire.
Ouais, au départ,
à une certaine
époque. Les Indiens là-bas, oui.
Voilà, mais là, simplement de ce point de vue-là, avec les extraterrestres, ça risque d'être nous, les Indiens.
Alfred Vidal-Majar.
Oui, on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche, mais je crois même que je dirais l'inverse. C'est même le plus souvent, on trouve des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Je donnerais même l'exemple des planètes extrasolaires. On cherchait des systèmes planétaires qui ressemblaient au système solaire. Et puis, on a commencé par trouver des planètes qui n'étaient absolument pas celles qu'on attendait, des géantes tout près de leur étoile. On a trouvé, chez nous, toutes les orbites sont circulaires. Là-bas, toutes les orbites sont très elliptiques, le plus souvent. On a trouvé des planètes dans des systèmes d'étoiles doubles ou multiples même. On a trouvé que des choses qu'on n'attendait pas, clairement qu'on n'attendait pas. Alors, je crois qu'il faut quand même être modeste et se dire, il faut chercher, il faut avoir une curiosité et l'esprit ouvert totalement. C'est comme... les extraterrestres, moi je dis que tout ce qu'on raconte au jour d'aujourd'hui, c'est probablement raisonnable, mais quand on aura quelque chose à se mettre sous la dent du point de vue observationnel, je crois que là on aura vraiment des surprises.
Les scientifiques apportent du rêve, évidemment ce n'est pas du concret, mais une société sans rêve, absolument sans rêve, moi je ne suis pas preneur.
Haroun, vous êtes à Bordeaux, bonsoir Haroun.
Oui, bonsoir à tous. Voilà, je vais vous poser ma question. Donc, je voulais savoir si l'homme était prêt donc à recevoir cette information, c'est-à-dire qu'il existe bien une autre forme de vie dans l'univers, et j'irai même plus loin, et que c'est même peut-être eux qui sont à l'origine de la vie sur Terre.
Sans aller jusque-là, effectivement, que se passerait-il si tout d'un coup, comme le disait André Braque il y a 10 minutes, on avait simplement un petit milligramme d'une matière qui démontrerait absolument que, peut-être pas sous forme intelligente, mais que la vie existe ailleurs. Pierre Lagrange, voulez-vous commencer ? Vous êtes ethnologue, vous êtes philosophe des sciences, sociologue des sciences. Ce serait quand même effectivement quelque chose de difficile à admettre pour nos propres intellects, quand même. Même si ce serait en même temps fascinant.
Je sais pas, disons que c'est souvent on a cette idée, souvent liée à l'histoire d'Orson Welles et son émission martienne, qu'une telle nouvelle pourrait déclencher la panique, enfin des espèces de tsunamis culturels. Bon, la réalité pour Orson Welles, on le sait maintenant, c'est que la panique a été vraiment toute relative et ça c'était surtout une espèce de mythe sur la crédulité populaire. On est très rapide, très prompt à croire que les autres sont idiots et croient n'importe quoi. Et je crois qu'il faut se méfier, surtout quand on a fait des études, de la prétendue bêtise populaire qui est beaucoup moins fréquente qu'on ne le pense. Donc je pense que s'il y avait une annonce pareille, c'est sûr que ça changerait beaucoup de choses, mais je pense que les gens continueraient aussi à vivre. Donc il y a eu des tas de changements, ne serait-ce que ces dernières années, des événements comme le 11 septembre ont énormément changé notre vision de rapport à la réalité, mais on continue aussi à vivre et on est capable de gérer ce genre de choses.
Il faut noter d'ailleurs, Sophie Bécherel, puisque notre point de départ c'était cette exposition à la Cité des sciences et de l'industrie, qu'elle est fort intelligemment faite, c'est-à-dire qu'on commence précisément par le mythe, enfin ce que certains appelleraient le mythe, la représentation, la science-fiction. Après on passe dans des salles où, alors là, de vrais scientifiques ont en quelque sorte inventé ou reconstitué des planètes imaginaires, Aurélia et Lune Bleue. avant d'en arriver véritablement aux éléments tout à fait patents dont on dispose. Autrement dit, on a déjà intégré cette dimension-là.
Oui, et ce qu'on voit bien dans l'exposition, c'est autant les écrivains et les cinéastes ont une image d'une vie extraterrestre très intelligente, très complexe, autant vous, les scientifiques, les exobiologistes ou les astrophysiciens, vous pensez à des choses très très simples. Mm-hmm. Et je pense notamment à cette histoire de la bactérie martienne, venant de la météorite martienne. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle sorte de vie vous vous attendez ? Est-ce que ce sont des formes effectivement très simples ? Il faut quand même que les atomes soient assemblés pour former une petite molécule quand même. Pour
absolument, absolument. Pour nous, la bactérie ou les bactéries représentent déjà le summum de la vie. C'est une vie accomplie, le moteur est inventé, elles ont inventé le moteur, elles étaient là bien avant nous, elles sont beaucoup plus diversifiées que nous, il y a plus de variété dans les bactéries que dans tous les autres systèmes vivants, et elles sont beaucoup plus résistantes, elles ont occupé tous les territoires sur Terre, à l'exception des laves en fusion. On en trouve à moins 20 degrés, on en trouve à plus 113 au fond des océans, près des fumeurs noires. Donc les bactéries, c'est merveilleux. Donc pour nous, une bactérie, si on trouvait une bactérie, ça serait extraordinaire. Maintenant, ces bactéries, si elles évoluent vers des systèmes pluricellulaires, ensuite des organismes qui sortent des eaux et qui se mettent à devenir intelligentes, ces organismes, pour nous, ça nous intéresse parce que ça nous permet aussi de suivre l'évolution de ces bactéries vers des organismes plus sophistiqués. Mais pour nous, si on trouvait déjà une bactérie, même fossile, on serait fou de joie.
Alfred Vidal-Maja.
Oui, pour les astrophysiciens en général, l'apparition de la vie est quelque chose de relativement automatique. On passe de la chimie au vivant, on ne voit pas pourquoi ça ne se ferait pas. Mais c'est bien parce que nous n'y connaissons rien en biologie. Et d'ailleurs, moi, un jour, j'ai lu un livre de Christian de Duve qui raconte comment est apparue peut-être la vie, en passant de la chimie, c'est-à-dire de l'inerte au vivant. Et il raconte que c'est aussi improbable de prendre des molécules et de les agiter, de les mélanger pour faire la plus simple des bactéries, que d'imaginer qu'un petit cyclone passe au-dessus d'une décharge et que des morceaux de métal et de papier et tout ça s'envolent et se regroupent pour former un Boeing qui se met à décoller dans le ciel. C'est pour vous dire combien on est loin de réaliser combien c'est difficile. Je pense que André Braque le précisera, mais c'est tellement difficile qu'il y a quand même une étape invraisemblable qui a été franchie quelque part, et vraiment on ne sait pas encore comment.
Oui, la difficulté, c'est qu'on se réfère toujours à la vie contemporaine, qui est le résultat de 3,5 milliards d'évolutions. Donc la machine a eu le temps, le petit moteur a eu le temps de changer de carburant, de s'entourer d'une carrosserie, etc. Et nous pensons que la vie n'est pas apparue sous les formes très complexes d'une cellule. La vie est apparue d'une manière plus simple que nous cherchons à reproduire en tube à essai, mais certainement pas aussi complexe qu'une cellule. Une cellule est déjà très complexe et le principe de la cellule est resté pendant 3,5 milliards d'années. Donc,
Monsieur Vidal-Maja, oui.
Oui, d'ailleurs, non seulement la vie a évolué depuis 3,5 milliards d'années, mais même elle a fait évoluer la Terre. Et comme on parlait de catastrophe écologique que nous sommes en train de faire, je peux signaler que la vie sur Terre a déjà fait une colossale catastrophe bien plus grande, puisqu'elle a complètement changé l'atmosphère et fait apparaître une atmosphère d'oxygène qui n'existait pas du tout au départ et qui n'a pas plu du tout aux êtres vivants qui étaient là à cette époque. Donc, il faut être conscient que déjà, des processus à l'échelle planétaire ont existé depuis toujours.
Sophie Becherel.
André Braque, dans notre système solaire, quelles planètes seraient les meilleures candidates à abriter des formes de vie simples ?
Alors, les planètes où existait ou existe encore aujourd'hui de l'eau à l'état liquide sont Mars, puisque ça maintenant, c'est clair, c'est établi. Il y a eu de grandes quantités d'eau à la surface de Mars. Donc, Mars connaissait des conditions qui étaient semblables aux conditions de la Terre lorsque la vie est apparue. Le deuxième candidat, c'est Europe, c'est une lune de Jupiter qui a une carapace de glace, mais sous la glace, il y a très probablement un océan d'eau salée. Et si dans cet océan, il y a des fumeurs noires, comme sur Terre, au fond des océans, il y a de la chimie, peut-être la fabrication de pièces nécessaires à la vie, de la vie, mais pour ça, il faut passer la croûte de glace qui fait 10 à 100 kilomètres, on ne sait pas.
Alfred Vidal-Maja.
Oui, j'entends le mot fumeur noir, qui est l'expression fumeur noir au fond des océans. Et à ce titre, j'ai vu l'exposition à la Villette. Et je dois dire que c'est tout à fait remarquable. Il y a toute une partie sur la biologie, justement, je ne connaissais pas trop.
La biologie sur Terre elle-même.
Sur Terre et même au fond des océans. Et on réalise que là, c'est des êtres qui vivent et qui n'ont pas besoin de l'énergie solaire et qui se débrouillent très bien et qui évoluent et qui ont évolué complètement différemment. On voit des animaux dont j'avais jamais entendu parler. Enfin, je vous assure, allez voir cette exposition de ce point de vue, c'est ahurissant. Pour le reste, c'est très ludique, c'est sympa.
Pierre Lagrange.
Oui, pour revenir au départ, là, la question de départ, méfions-nous de pas trop couper entre le mythe et et le travail scientifique. Disons que le travail scientifique se nourrit aussi de mythes et en produit suffisamment. Je pense qu'il y a deux aspects dans toute cette recherche. Il y a effectivement l'exobiologie, même le programme SETI, où on a une prise expérimentale sur les faits. On peut faire des expériences, on peut concevoir des manipulations à mettre en place. Et puis il y a tout un aspect de la question qui est notamment lié au paradoxe de Fermi, cette idée que, vu sur le nombre d'étoiles et de civilisations qui pourraient exister dans l'univers, il doit y en avoir qui sont beaucoup plus en avance, beaucoup plus anciennes que la nôtre, et donc qui auraient résolu des questions comme le voyage dans l'espace. Et là, on est face à quelque chose qui nous met dans la position que je disais tout à l'heure, la position des Indiens, c'est-à-dire qu'on est quelque part moins savant que ces éventuels extraterrestres, et ça nous pose tout un problème, c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour se saisir d'un problème qui nous dépasse, qui nous transcende. On est un peu dans la situation des babouins face aux primatologues. Habituellement, c'est le primatologue qui étudie les babouins. Là, on est un peu dans la situation du babouin qui voudrait comprendre qu'il y a un programme de primatologie à l'université de San Diego alors qu'il est au milieu du Kenya. C'est un peu difficile, quoi. Mais c'est néanmoins intéressant.
Oui,
moi je voulais dire que personnellement, je rêverais qu'il y ait des extraterrestres, qu'ils soient de toutes les formes possibles. J'adorerais voir des soucoupes volantes, etc. Mais le jour où j'ai compris le paradoxe de Fermi, en deux mots, si je peux vous le faire comprendre très brièvement, c'est de réaliser que si toute la vie de l'univers dure une année, l'apparition de l'homme, c'est que le 31 décembre vers 9h du soir, et que l'homme tel que nous le connaissons, c'est les 10 dernières secondes de l'année, toute l'histoire de l'humanité, c'est 10 dernières secondes de l'année. Et quand on sait que des planètes, on en trouve énormément, qu'il y en a 50 millions par jour de ce calendrier cosmique qui apparaissent, vous vous rendez compte que s'il n'y avait eu qu'une seule civilisation quelque part sur une planète parmi les myriades de planètes qu'on trouve, où la vie serait apparue comme chez nous, s'il y avait une civilisation comme nous, elle serait pratiquement déjà partout dans la galaxie. Résultat, on est obligé, malheureusement, et là je suis le premier à m'en plaindre, mais on est obligé d'arriver plutôt à la conclusion de dire il doit y avoir quelque chose qui bloque quelque part, ou l'apparition de la vie, ou son évolution. En tout cas, ce n'est pas le manque de planètes, parce que maintenant on sait qu'il y en a beaucoup.
Oui, mais André Braque, d'abord.
Les bactéries ne communiquent pas, il y a peut-être plein de bactéries partout.
Et qui n'attendent pas d'intelligence.
Pas capable de développer.
Pierre Lagrange.
Oui, ce qui bloque, c'est en fait le problème est simple. On croit que si on était confronté, on comprendrait. Regardez l'histoire des contacts entre cultures sur Terre. La constante, c'est l'incompréhension. Si on est confronté à une civilisation extraterrestre, elle sera tellement différente de tout ce que l'on connaît que est-ce qu'on serait capable seulement de percevoir qu'il y a un contact? C'est ça la vraie question.
Alors, si vous habitez la région parisienne, je vous encourage vivement à visiter cette expo de la Cité des Sciences qui est tout à fait passionnante. Sophie Bécherel, vous vouliez nous donner une adresse internet.
Si vous n'habitez pas la région parisienne et que vous ne comptez pas venir à Paris, sachez que, comme à son habitude, la Cité met sur son site internet énormément de documents. Donc, c'est extrêmement riche. www.cité-science.fr. Vous verrez le dossier de cette exposition. C'est très riche. Il y a des films. Vous retrouverez notamment André Braque, l'aspect fiction, l'aspect scientifique, c'est un formidable dossier.
Merci à tous. Demain soir au téléphone sonne l'apprentissage en alternance, mais attention, et on ne le sait pas toujours, à l'université. Ça concerne 60 000 étudiants et il paraît que les taux de réussite sont bons. Donc apprentissage dans le supérieur demain. Bonsoir à tous, merci.
C'était le téléphone sonne, une émission dirigée par Alain Bédoué.